Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1er, et dans ce texte, je lis ceci, « Au commencement, le Père Noël ». Je crois que nous n'avons peut-être pas la même Bible. Nos chers amis, frères et sœurs, nous ne célébrons pas la fête de Noël à la gloire du Père Noël. Mais nous célébrons l'anniversaire, comme il a été dit, de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est avec Dieu dès le commencement de la création. Reprenons le verset 1 de Genèse. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et là, nous avons les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu était au commencement et Jésus avec lui. Et dès le commencement, Dieu s'intéressait à l'humanité. Nous le verrons un peu plus loin. Malheureusement, comme à l'époque de la naissance de Jésus, nos contemporains, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, sont tout aussi indifférents envers celui qui représente vraiment Noël, c'est-à-dire Jésus, le Sauveur du monde, mon Sauveur, notre Sauveur, votre Sauveur. Et aujourd'hui, il veut être le Sauveur de quiconque s'approche de lui. Ça devait être un message d'évangélisation ce matin, mais je vois que nous retrouvons en famille. Mais il est bon de nous réévangéliser, hein, parce que des fois on oublie certaines choses essentielles. Nous lisons donc dans Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er. C'est très difficile, Henri, de ne pas toucher la chair. Parce qu'elle est calée, parce que... Alors, je mets mes mains dessus. Parce qu'on me dit, dans l'enregistrement, on entend boum, 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 boum. C'est vrai, il faut dire que mes origines italiennes m'obligent à parler avec les mains, alors c'est pas toujours facile de les mettre en poche. Jean chapitre 1er. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont les noms du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous voyons que Dieu s'est révélé aux hommes par Jésus. Il est venu nous apporter la lumière. Car nous vivions dans les ténèbres. Quand Dieu n'éclaire pas une vie, cette vie est dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres et nous vivons à tâtons. Quand on est dans le noir, qu'on descend la nuit peut-être, et qu'on n'allume pas de peur de réveiller les autres, nous tâtonnons parce que nous sommes dans les ténèbres. Et c'est ainsi que l'homme, quand il n'a pas Dieu, cherchant quelque chose dans le noir, qui s'appelle le bonheur. Il y a une chanson qui dit « Le bonheur, il est où ?» Il cherche un idéal, un but, un modèle. Et pourquoi pas, cherchant un Dieu. Dieu a vu la misère du monde après la chute causée par le péché dans lequel nous avait plongé la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu, à ce moment-là, a vu son plan de créateur complètement bouleversé. La perfection de la création n'existait plus, parce que le monde plongea d'un seul coup dans les ténèbres à la merci de Satan. Voilà le résultat du péché. Voilà le résultat de la chute d'Adam. Mais Dieu est bon. Et Dieu prépare son plan de rédemption pour l'humanité, car Dieu aime trop sa créature pour nous laisser dans cet état. Dieu est amour. Il ne veut ni ne peut nous laisser dans cet état, malgré le fait que l'homme a choisi de vivre sans Dieu. Genèse 3 nous dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le message est clair déjà à ce moment-là. Dieu va prévoir une planche de salut pour l'humanité. Dès le moment où l'homme a chuté, Dieu déclare la guerre à Satan et promet une guerre sans merci contre le péché. Et il prépare le monde d'alors à la venue d'un sauveur. Sa venue ne devrait pas être une surprise pour le peuple d'Israël, car les prophètes l'ont annoncé dès les temps anciens. Ésaïe 7 nous dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Plus loin, Ésaïe dit encore, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, le prophète, nous fait part d'une confidence. Une fille vierge donnera naissance à un enfant qui sera le sauveur. Rappelez-vous du message de dimanche dernier où nous avons parlé de la venue du Sauveur par Marie. Celui qui apportera la délivrance dans ce monde, c'est le Messie. Il nous dit un peu plus loin, on l'appellera admirable. Et Jésus a été admirable, car il a fait des choses extraordinaires pendant son message, son voyage sur la terre. Conseiller. Quel conseil judicieux il a pu apporter au monde, des conseils pleins de sagesse, des paraboles extraordinaires, où il essayait de faire comprendre qui il était et ce qu'est le royaume des cieux. Dieu puissant, le Fils de Dieu, par la puissance de son Père, a accompli des choses miraculeuses pendant son ministère. Père éternel, oui, Jésus était éternel, car au commencement, il était déjà là avec son Père. Il était aussi appelé Prince de la paix. Il est venu apporter la paix au monde. Bien entendu, il n'est pas venu apporter la paix dans le monde, puisque le monde le rejette. Alors le monde ne peut pas vivre en paix, mais il apporte la paix à celui qui l'accepte comme sauveur, qui l'accepte comme guide dans sa vie, afin que ce sauveur dirige nos pas. La Bible aussi nous donne le lieu de naissance, c'est-à-dire si cet enfant n'était pas déjà annoncé dès les temps anciens et si le peuple d'Israël avait voulu comprendre le message des prophètes, il savait où le Messie allait naître. Michée 5 nous dit, « Et toi, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. On nous dit que le Sauveur naîtra à Bethléem. Et vous imaginez la joie des habitants de Jérusalem. Ils étaient remplis de joie, de fête, il y avait plein de banderoles pour attendre le Messie. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'y avait aucune animation, aucune affiche annonçant la naissance du Sauveur. Tout le monde vaquait à ses occupations, sans penser un seul instant que ce Messie allait naître d'ici quelques jours, dans l'indifférence la plus totale. Écoutons la Bible. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Un jeune couple erre dans les rues de Bethléem, cherchant un lieu pour se poser, afin que Marie puisse s'accoucher dans des conditions normales. Mais pas de place, dans aucune auberge, dans aucun hôtel. Tout était complet. Pour eux, une simple étable pour accueillir le Sauveur du monde. L'indifférence, voilà ce qui caractérise aussi notre époque, chers amis. Le monde est indifférent à tout ce qui touche Jésus. Voilà pourquoi la fête de Noël est vidée de son sens premier, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. La venue du Sauveur n'intéresse plus qu'une minorité de nos contemporains. Père Noël, voilà ce qu'on entend tout le temps. Les cadeaux. Bien sûr, nous aimons tous recevoir des cadeaux. Bien manger, bien boire. Voilà ce qui intéresse notre monde en cette période de Noël. Nous ne voyons plus aucune trace du Sauveur du monde. Et malheureusement, cette frénésie des achats, cette frénésie d'abondance atteint aussi le milieu chrétien. Mes frères et sœurs, ce matin, réveillons-nous. Le Sauveur est né et il est toujours vivant. Voilà ce qui doit faire notre joie à nous en tant que chrétiens. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion, loin de là, ni une nouvelle philosophie, ni une autre manière de vivre. Il est venu pour racheter l'humanité de ses péchés. Et le message qu'il apportait ne fut pas accepté par les gens de son époque, comme pour la plupart de nos semblables aujourd'hui qui refusent le message qu'apporte l'Évangile. Ils ne supportaient pas d'entendre ce merveilleux message qu'est le message de Jésus. Et pendant plus ou moins 3 ans et demi, il accomplira des miracles, des guérisons, des résurrections, et bien d'autres merveilles ont été accomplies. Malheureusement, il ne fit jamais l'unanimité. Une poignée de gens l'ont suivi à plein temps. Certains l'ont suivi de temps en temps. Bien souvent, ils étaient intéressés quand Jésus multipliait le pain, quand Jésus guérissait, etc. Jésus se fit de nombreux ennemis. Surtout et curieusement parmi les hommes religieux de l'époque, qui ne supportaient pas d'être remis en place parce qu'ils n'étaient plus que des gens religieux, accomplissant des traditions, n'ayant plus aucune relation avec leur Dieu. Et ils ne supportaient pas, Jésus, cette religion de façade. Il n'y avait aucun amour pour Dieu et pour leur prochain. Et voilà que son ministère va s'achever par une arrestation, un simulacre de procès le conduisant à la mort de la croix. Parce que les religieux de l'époque ne supportaient pas qu'il se déclare fils de Dieu. Et alors ces gens religieux ont manipulé la foule. Et cette foule criait à Pilate, « Crucifie-le ! Nous ne voulons pas de lui, relâche-nous Barabbas, le criminel. C'est plus intéressant que cet imposteur. » Frères et sœurs, entendons-nous le cri de la foule aujourd'hui qui crie « Crucifie-le ! » L'indifférence totale que le monde a pour Jésus, c'est presque ce cri que poussait la foule de l'époque, « Crucifie-le ! Nous ne voulons pas de Jésus, nous voulons le Père Noël. Nous voulons manger, boire, nous amuser, vivre à notre propre guise, profiter. Nous ne voulons pas de Jésus. » Et ce merveilleux Sauveur qui était avec Dieu son Père dès le commencement du monde fut crucifié, abandonné de tous, et même par son Père. Dieu a abandonné son Fils. Et il s'écrie, « mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ? Pour que tu sois là ce matin. Parce que le sang de Jésus, mort sur la croix, nous purifie de tout péché. Lui, le juste, paye pour les coupables, pour les misérables, pour les criminels, pour les perdus, pour toi et pour moi, tous ceux qui étaient loin de Dieu le Père. Il est mort, mais il est ressuscité. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Il est remonté près de son Père et il intercède pour nous, pour tout être humain qui s'approche de lui pour le rencontrer. C'est Noël. Voulez-vous partir à la découverte de celui que nous fêtons aujourd'hui? Dieu a envoyé son Fils Jésus parce qu'il nous aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que répondons-nous ce matin à ce message? Le plus beau cadeau de Noël qui puisse exister, c'est celui-ci. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'il a donné qui? Qu'il a donné quoi? Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que il meure à notre place, que nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu à Noël pour que nous fêtions, que nous fassions un réveillon. Il est venu à Noël parce qu'il avait une mission à accomplir. Il fallait que quelqu'un paye pour le péché d'Adam. Voulons-nous ce matin, frères et sœurs, chers amis, accepter ce merveilleux cadeau? Il est gratuit, comme tout cadeau. Il suffit de s'approcher de Jésus. Vivrons-nous encore un Noël de plus sans Jésus? Sans le personnage principal de cette fête? Je laisse trois petits points de suspension. À nous de répondre à l'appel de Jésus. Que nous soyons chrétiens de longue date, ou fraîchement convertis, ou simples curieux. Qu'allons-nous faire de Noël cette année? Comment allons-nous vivre Noël? Je l'ai dit, même nous, les chrétiens, parfois nous ne réalisons plus que Noël, c'est la venue du Sauveur. Alors invitons-le à notre table le jour du réveillon. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être venu. Merci pour Noël, qui nous rappelle que tu es venu comme un simple enfant, rejeté. Personne ne faisait attention à toi. Et tu es venu. Tu as accompli un ministère extraordinaire. Tu as porté la délivrance et la paix. Merci de t'être laissé crucifier pour nous, Seigneur. Merci d'avoir payé. Quel beau cadeau, Seigneur, d'avoir donné ta vie parce que tu nous aimais. Et ce matin, nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier d'avoir tant aimé parce que tu t'es donné. Père, bénis vraiment cette communauté, que nous puissions tous revivre un autre Noël à partir de cette année. Amen.